Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Merci d'écouter la radio Nzamba Agate Kakawe, c'est l'heure du jour dans la français, dont voici d'abord les principaux titres. La radio BBC va émettre de nouveau sur le sol burundais après environ 4 ans de fermeture. L'annonce a été faite ce mercredi par la présidente du Conseil national de la communication CNC. Et puis les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur certaines collines de la commune de Matongo en province de Kayanza ont fait des dégâts. Cette maison a été détruite et plusieurs champs de culture dévastés. Le pape François va visiter le Burundi l'année prochaine 2023. Le président Évariste Ndayishimiye l'a dit aujourd'hui à son retour de la visite qu'il vient d'effectuer au Vatican. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes mercredi 30 mars 2022. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le pape François a promis de visiter le Burundi au cours de l'année 2023. Cela a été dit aujourd'hui par le président Évariste Ndayishimiye à son retour du Vatican au siège de l'Église catholique. Il a dit avoir eu de bons entretiens avec le souverain pontife et avec le secrétaire général du Vatican. Ce dernier a demandé au président Ndayishimiye l'état d'avancement des enquêtes sur l'assassinat de l'ancien nonce apostolique au Burundi, Michel Courtenay, tué en 2006.
Je viens d'effectuer une visite au siège où j'ai rencontré le Saint-Père, le pape François et le secrétaire d'État. Nous avons relaté l'histoire des relations entre le Saint-Siège et l'État du Burundi, qui date de longtemps. La première nonciature en Afrique a été au Burundi en 1962. Et cette année, nous fêtons la 60e anniversaire de ces relations, mais aussi nous fêtons l'année prochaine le 125e anniversaire de la venue du christianisme au Burundi. J'ai profité de cette occasion même pour l'inviter à venir fêter avec nous ces événements, chose qu'il a acceptée spontanément. Que l'année prochaine, il va venir et il a écrit cela dans son agenda immédiatement pour se souvenir. Il a aussi accordé l'occasion à la délégation de les saluer et de les bénir. Après cet entretien, nous sommes dirigés aussi vers le secrétariat d'État où on a analysé ensemble l'état des relations entre l'Église catholique et l'État du Burundi. On m'a posé la question qu'il y avait eu des problèmes de nomination des directeurs des écoles et aussi de l'engagement des enseignants prêtres. Et j'ai trouvé que c'était une erreur simple parce que tu ne peux pas refuser quelqu'un qui vient pour t'appuyer. Cette question a été résolue rapidement. Et aussi, on a échangé sur la question de vérité et réconciliation. Surtout que le malheur qui a touché les Burundais a touché aussi le Saint-Siège. L'Église catholique aussi a subi des revers de ces conflits. Nous avons perdu notre cher et notre apostolique, Christine, qui était ici. Nous ont demandé où nous en sommes avec les enquêtes. J'ai expliqué qu'à ce moment-là, le gouvernement était tellement faible qu'il ne pouvait pas effectuer des enquêtes. Tout ce qui n'a pas été enquêté pendant les différentes crises que le Burundi a connues, c'est maintenant la Commission Vérité et Réconciliation qui va enquêter sur cela. Ce crime va être enquêté. Ils m'ont demandé qu'on fasse un effort pour que le 20e anniversaire de son assassinat soit une année où on aura eu la vérité sur ce crime. Nous allons nous y mettre pour que la vérité soit mise au clair.
Je vous le disais en titre, après près de 4 ans de fermeture, la radio BBC vient d'être autorisée à émettre de nouveau sur le sol burundais. L'annonce a été faite par Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication CNC. C'était ce mercredi à l'issue d'une session extraordinaire de 2 jours, une session qui réunissait les membres de ce conseil. On l'écoute.
Nous devrions analyser et approuver quelques médias qui ont demandé l'exploitation officielle de leurs médias. Il s'agissait de 8 dossiers qui ont demandé l'agrément, dont la radio Igichu FM et la télévision Kuja TV, la télévision Katika Muziki, il y a la radio La Voix des Jeunes, il y a radio Afrique Digital Media Corporation, il y a radio PG Classic FM, Ijwi Ry'Umunezero et la télévision Tanganyika. Ce sont les les 7 qui ont eu l'agrément pour pouvoir exploiter leur média officiellement. 8e dossier en rapport avec la radio Voix du développement communautaire de Bubanza. Celle-là a été retirée de la liste parce qu'il y a quelques éléments qui devront être remplis pour être agréés. Peut-être que le dossier sera de retour la fois prochaine. Et il y a un 9e dossier qui est assez intéressant, c'est la radio BBC. Comme vous en êtes au courant, il y a quelques mois, c'est pas une année, mais une période quand même assez considérable, que le CNC avait suspendu la radio BBC pour des raisons, des fautes professionnelles. Mais alors, à un certain moment, il y a eu une voix de la part de son Excellence, le Président de la République, qui a recommandé que le CNC puisse s'asseoir avec les médias sous sanction afin qu'ils puissent régler le problème définitivement. Et nous avons emboîté le pas. Nous sommes allés dans la même voix. Finalement, les conditionnalités qu'on avait posées à la radio BBC a été honorées et voilà qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un consensus, à une décision de réouvrir la radio BBC à partir d'aujourd'hui.
C'est un signal positif, estime Arnaud Frogère, responsable de Reporters sans frontières, région Afrique. Il appelle le CNC à assainir le climat de travail des médias sur le terrain.
C'est quand même la traduction de la volonté qu'avait exprimé le président en tout début d'année dernière de régler les différends avec les médias. Donc ça prend du temps, néanmoins, plus de 4 ans, ou quasiment 4 ans après la suspension d'un média international aussi réputé et connu que la BBC, le fait que ce média puisse reprendre ses activités, ça envoie un signal positif, non seulement évidemment pour la BBC elle-même, mais pour l'ensemble des médias burundais. Et comme vous l'avez souligné dans votre question, on espère que ça se traduira par d'autres actes concrets, parce que les problèmes sont encore nombreux. Il y a d'autres médias qui ont été sanctionnés. La BBC n'est jamais que le deuxième média après Radio Konecha FM à être autorisé. Il y a des médias qui avaient été incendiés et saccagés pendant la crise. Il y en a de nombreux qui sont encore en exil. Il y a des journalistes qui sont encore en exil, dont les conditions de sécurité pour un retour sont pas encore pleinement assurées. Donc il y a un certain nombre de problèmes à régler. Mais on part de très loin. Il faut se souvenir de la situation dans laquelle on était il y a encore un an et demi, deux ans. Il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Il y a encore des problèmes qui persistent. C'est à ces problèmes-là qu'il va falloir s'attaquer de manière franche et massive. Et je n'oublie pas de mentionner, évidemment, toutes les pressions qui sont subies par les journalistes burundais qui opèrent encore dans le pays, avec parfois des menaces, parfois des agressions physiques. Donc c'est tout un système et un climat auquel il faut mettre fin, mais en tout cas on peut quand même saluer évidemment cette décision qui va dans le bon sens et appeler les autorités eh bien, à s'attaquer à l'ensemble des problèmes extrêmement importants auxquels sont confrontés les journalistes burundais depuis plusieurs années maintenant.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoué.
Dans la suite de ce journal, cette maison a été détruite, plusieurs champs de culture abîmés. Ce sont là les dégâts occasionnés par des pluies qui se sont abattues ce mardi après-midi sur certaines collines de la commune Matongo en province Kayanza. L'administrateur de cette commune demande aux bienfaiteurs et à la population des collines non touchées par les dégâts de venir en aide aux sinistrés. Les détails avec Vanessa Mohiteka.
Cette pluie a été touchée 9 collines nord-sud de la zone de Banga et 2 de la zone de Burarana. Au même moment, les toitures de cette maison de la colline Nibutuburana en zone Nibularana ont été emportées par le vent. Les toitures de 2 salles de classe de l'école fondamentale de Gisangé se sont également envolées. Quelque chose d'inhabituel, lors de cette pluie, le vent a déraciné 150 arbres de type eucalyptus. Pour le moment, les victimes ne savent pas à quel sens vouer et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Du côté administratif, un cri d'alarme est lancé aux bienfaiteurs et aux habitants des collines n'ayant pas été touchés par la pluie, en fait qu'ils apportent leur soutien aux personnes éprouvées.
Dernier dossier de ce journal, la mesure interdisant les vélos, les motos et les tuk-tuk d'opérer au centre-ville de Bujumbura a produit des effets positifs. C'est le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha qui l'a dit dans une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi. Il a indiqué que les accidents ont diminué. Il remercie la police qui a eu cette idée et espère que les accidents vont sensiblement diminuer dans les jours à venir.
La mesure est en application et nous en sommes fiers. Nous remercions premièrement la police qui a eu cette idée et en second lieu nous remercions les concernés car ils ont respecté ce qu'on leur a demandé et aucun incident n'a été signalé entre les conducteurs de ces taxis vélo, moto et tuk-tuk et la police. Les retombées de cette mesure sont visibles et sont franchement encourageantes. Depuis le 10 mars jusqu'au 21 mars, c'est-à-dire 9 jours avant que cette mesure ne soit prise, dans la zone interdite, il y avait eu 136 accidents, dont 4 morts et 49 blessés. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes satisfaits parce que depuis la mise en application de cette mesure, à partir du 21 mars jusqu'au 29 mars, soit 8 jours, il y a eu 90 accidents qui n'ont occasionné aucune perte en vie humaine et 14 blessés.
Gervais Ndirakobucha, c'est le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci bien de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.